למען ישים עליכם תחיו לאורך חיים טובים שנים נעימים. ולא בעזרת השם, נתקן un problème, un sujet important en vue de Shavuot. Il s'agit des Louhot. Zenu b'shem Adonai yoseh shamayim v'aretz. Au sujet des premières tables, il est dit, dans Parashat Kitissa, Perek Lamed Bet, Pasuk Tetzaïn, Ve'a Louhot ma'ase Elohim hema. Ve'a Mirtav, Mirtav Elohim hu. Harut ala Louhot. Les Louhot, Ma'ase Elohim, Hema. C'est-à-dire, quand on parle des Louchot, il s'agit des tables, la matière elle-même. C'était une Ma'ase Elohim. C'est une matière, une action, c'est quelque chose qui a été forgé par Dieu. Et l'écriture aussi, bien Mirtav, qui était gravé sur les tables, Mirtav Elohim. L'écriture était aussi venue aussi de Dieu. Et puis le pasuk dit Harut al aluchot. Le mirtav, il n'est pas écrit sur les tables, comme si on prend un parchemin et on écrit dessus, mais il était Harut al aluchot. Il était à l'intérieur des tables. Il était gravé, faisait partie intégrante des tables. Ça, c'est un point très important. Ce concept de graver, ce qui revient à dire que quand on grave, ici en l'occurrence, les Aseret HaDibrot sont gravés dans la pierre, c'est-à-dire que les lettres, les mots font, et la matière, le support, ne font qu'un. Et c'est le sens de Harut al aluchot. Et à ce sujet, Chazal dit, ne dit pas Harut, dit Herut, en lecha ben Hurin et la Misha Osek Batorah. Ça, c'est le premier point, c'est les premières tables, c'est la madriga des premières tables. Au sujet des secondes tables, dans la même paracha, un peu plus loin, il est dit, « Vayomer Hashem el Moshe, esol lecha shen eluchot avanim karishonim, lechatavti al aluchot, et ta devarim, asher ayu, al aluchot arishonim, asher shibarta. » Alors, il lui dit, va, tu dois tailler, pesol lecha, c'est toi qui dois tailler les tables. Chez nous, l'ouchot de deux tables de pierre, comme les premières, c'est-à-dire elles étaient pratiquement de la même matière, mais c'est toi qui dois tailler. Vechatavti à la louchot, et j'écrirai sur les tables les mêmes paroles, les paroles que j'ai, qui étaient écrites sur les premières tables que tu as brisées. A priori, ici, il est dit écrit. Dans les tables, dans les secondes tables, il n'y a pas marqué qu'ils étaient gravés, il y a marqué qu'ils étaient écrits, mais ça veut dire aussi gravé. Il y a, a priori, la relation entre l'écriture et la matière, elle est, le terme employé est un peu différent. Dans les premières tables, il est dit, mais Mirtav, Mirtav Elohim, hu, Harut al aluchot. Il fait partie intégrante dans les premières tables, l'écriture fait partie intégrante des tables. On ne peut pas distinguer. D'ailleurs, c'est une des difficultés de la brisure. Quand la brisure s'est produite, quand Moshe Rabbeinu a fait tomber les tables, donc il les a brisées, ça veut dire, alors les Chazal nous disent, que les otiot, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les lettres qui montaient vers le ciel. Les lettres retournaient d'où elles venaient. C'est-à-dire que la brisure a causé, on appelle ça les chivres et l'ouchot, la brisure a causé une distinction, une différence entre une désolidarisation, ça a fait une différence entre l'écriture et les tables. Il y avait la trace, il restait sur les tables la trace de l'écriture, certes, mais les lettres se sont envolés. Alors, quel est le sens de cette idée? Ça reviendrait à dire, on pourrait expliquer facilement que lors de la brisure, toutes les lettres ont été brisées, donc là où les lettres gravées sont, ça a été brisé, donc on ne peut plus lire ce qu'il y a marqué. Mais a priori, ce n'est pas cela qui est dit dans les Chazals. Il est dit dans les Chazals que les tables ont été brisées du fait que les lettres se sont envolées. Elles sont appelées Shivrei Luchot parce que les lettres se sont envolées. Entièrement, les lettres se sont envolées. Et ont laissé sur place, juste une trace. Alors, cette idée-là, les Mfarshim nous expliquent que c'est l'idée que toute chose, les lettres, sont le vecteur des énergies de vie. Comme il est dit lors du Mahamad Arsinaï, la montagne était en feu, la fumée, la puissance, toute la puissance de Dieu dans toutes ses dimensions s'est dévoilée aux yeux de l'âme Israël. Et quand les 10 commandements ont été dits, ils ont vu les lettres, ils ont vu les paroles, ils ont entendu ce qui se voit et ils ont vu ce qui s'entend. Donc c'était toute une... Et c'est toute cette dimension-là, toutes ces dimensions de Giloui, des énergies puissantes de vie, du dévoilement divin, qui sont enfouies dans les lettres. C'est tel que l'explique le Farshim, le Ramchal, à la fin du Sefer Messilat Sharim, il a un livre qui s'appelle Derech Etz Haim. Là-bas, il explique cette notion-là, que dans chaque lettre, est comme une braise qui contient des énergies extraordinaires. Il suffit de souffler dessus pour enflammer, et la flamme va prendre plusieurs nuances, plusieurs couleurs, qui correspondent aux différentes manières d'interpréter la Torah. Donc il s'agit ici des énergies extraordinaires qui sont enfouies dans les lettres. Et ces lettres-là, et ces énergies-là, sont partie intégrante des tables. Alors ça correspond, en fait, à la madriga de l'homme. L'homme est constitué d'un corps et d'une âme. Alors, on peut comprendre que le corps a été créé, façonné comme une statue, un corps inerte, puis Akadosh Baruch Hu lui a insufflé son âme. Et c'est l'âme qui va donner au corps la possibilité de se mouvoir, là, c'est qu'il lui insuffle la vie. Et c'est a priori comme ça que Adam Arishon, c'est ainsi que la Torah raconte, là, ou les Chazal racontent comment HaKadosh Baruch Hu a créé l'homme. Il y a une autre madriga, il y a une autre différence dans notre notion, notre point. Qui explique cela. Chazal nous dit que Israël she'amdo al Har Sinaï, quand ils ont dit Na'aseh v'nishma, et qu'ils ont assisté à l'événement extraordinaire de Matan Torah, alors là-bas il est dit Paskazu Amatan, la trace qu'a laissée, la Tum'a qu'a laissée la faute originelle, quand le venin du serpent a pénétré dans le corps de l'homme, de la femme. Alors il a laissé une saleté, une tache dans le corps de l'homme. Et cette tum'a-là, cette difficulté-là, cette scorie, a été éliminée lors de Matan Torah. Ceux qui ont dit Na'aseh v'nishma, qui étaient là, Mahamad Asinai, ça a été éliminé. C'est revenu lorsqu'ils ont fait Het Ha'Egel. Le Hari dit, il explique la création du monde, et il dit à Kadosh Baruch Hu, nous sommes à un niveau extrêmement éminent, noble, et quand on emploie les termes, il faut employer les termes avec égard, les termes, c'est des termes... qui ne sont pas véritablement, c'est tout est en rapport. Alors il dit, le or Elion, la lumière, donc un jour vous créez le monde. Or il fait descendre, il émane de Dieu une lumière, un or, ce sont des énergies. Et ces énergies-là descendent. Et ce sont des énergies limpides, pures, épurées, totalement spirituelles. Et plus ça descend, et plus cette énergie-là se divise en deux. Il y a une part de cette énergie qui va se densifier, devenir plus âpre, plus épaisse, et une qui va être et qui va rester tout le temps limpide. Et ces deux énergies, donc, qui émanent de la même source, c'est le même flux, c'est la même, une seule et unique énergie une seule et unique lumière qui émane, mais au fur et à mesure qu'elle descend, elle se sépare. Une est plus épaisse et l'autre est plus spirituelle et plus limpide. La partie plus épaisse va former le Kéli, nous dit le Hari. C'est cette partie épaisse qui va former le Kéli. Le Kéli, c'est le corps. Et l'autre partie, c'est ce qui va pénétrer dans ce Kéli, ce qui va remplir le Kéli. Le récipient, toute chose, toute lumière pour qu'elle puisse être appréhendée par la créature, dans la création, doit être contenue. Donc il faut absolument qu'il y ait un réceptacle. Donc le réceptacle ici, ce n'est pas un objet, c'est un réceptacle spirituel, certes. Mais en comparaison avec l'énergie première, l'autre énergie, l'autre lumière, elle est considérée comme étant plus épaisse. Donc elle va se fondre ou se former en récipient. Et c'est là que l'autre part, l'autre énergie va pénétrer. Et c'est l'association des deux qui forme le Kéli et son contenant. Il s'agit de la matière qui va contenir les lettres. Il s'agit du corps. C'est ainsi que le corps de Adam Harishon a été forgé, a été formé. Et son âme lui a été insufflée. Donc l'âme et le corps ne font qu'un. Ils sont intimement liés. Ce ne sont pas deux éléments étrangers, totalement étrangers. Au départ de la création, le corps de Adam Arichon lui-même était d'une finesse et raffinée, extrêmement limpide, transparent. Donc c'est ça l'idée. Ve'aluchot ma'ase Elohim hema. Les luchot elles-mêmes sont l'action, les énergies de Dieu. C'est une matière qui vient de Dieu, une matière extrêmement spirituelle. Ve'amirtav, et le mirtav, l'écriture, n'est pas écrit sur les pierres, mais écrit dans les pierres. Et c'est exactement cette idée-là, et c'est la conjugaison de deux éléments qui forment le corps, qui forment l'être humain. Et les louchot sont à l'image du corps de l'homme. On va voir ailleurs que Moshe Rabbeinu va ériger 12 pierres et va écrire la Torah sur 12 pierres. Il va écrire dans toutes les langues, mais il ne va pas écrire à l'intérieur des pierres, il va écrire sur les pierres. Là, il n'est pas dit qu'il écrit sur les pierres. Il est dit qu'il est harout à la louchot. De telle sorte que c'est cela, c'est cette imbrication de la parole, de l'énergie spirituelle, du ktav, des lettres, à l'intérieur de la matière, qui fait que le mot charout est interprété par le mot chérout, liberté. C'est-à-dire on est détaché de toute matérialité. Ça, c'est au premier niveau. Ça, c'est au niveau des premières louchot. Donc, ça vient du haut vers le bas. Donc, quand ils font le chet ha'egel, quand ils vont faillir et faire le chet ha'egel, donc là, ils vont retomber de madriga. Donc les lettres, Moshe Rabbeinu va briser. Briser, ça signifie qu'il va distinguer qui va, par son acte, il va distinguer, séparer l'âme, les lettres, il va les retirer de la matière. Donc les lettres vont remonter. Alors après, il est dit, Vayomer Hashem, pour le deuxième temps, Vayomer Hashem el Moshe, Pesol Lecha, taille pour toi, Sheneluchot Avanim Perishonim. Tu vas tailler comme les premières. Donc tu vas aller préparer la matière. Et c'est seulement après que tu auras préparé les pierres que j'écrirai. Bekatavti alalochot, et j'écrirai sur les pierres. Ici marqué alalochot, sur les pierres. Et ta devarim, les paroles, asher ayu alalochot arishonim asher shibarta. Il écrira, quand il va écrire, donc le mirtav, il est mirtav Elohim, et la matière, vers l'uchot, ma'asé Adam. Le mot pesol lecha, taille pour toi, indique qu'il s'agit de travailler. Donc il y a quelque chose, le mot pesol, il y a quelque chose de négatif dans ce mot-là. Il faut arriver à tailler, à enlever ce qui est superflu. C'est-à-dire qu'il s'agit de purifier la matière. Pesol lecha, il y a du pasoul. L'ifsol, il y a des chutes. Il y a des éléments négatifs qu'il faut éliminer. C'est ça le travail. À partir du moment où l'homme est revenu à la situation antérieure et que le Yetzerara, la Zorama est revenu, donc les effets négatifs du venin du serpent l'ont à nouveau pénétré. Donc l'homme doit commencer à tailler les pierres. Et c'est seulement s'il parvient à tailler les pierres, donc c'est Moshe ici en l'occurrence, il taille les pierres, comme les premières, il faut les tailler. De la même manière, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'intention, la volonté de faire de ce que nous sommes aujourd'hui ce que nous aurions dû être lors de Mahamad Arsinaï, Pascal Zouamatam. C'est seulement alors que j'écrirai sur les tables ce qui a été écrit sur les premières tables qui ont été brisées. Le travail de l'homme est justement de parvenir à cette purification. Ce qui a été perdu a été perdu, mais il y a une capacité, l'homme a une capacité, il y a un potentiel énorme de retrouver cette dimension-là. Alors il s'agit essentiellement de la tâche que l'homme doit s'attacher à l'humilité. Pour parvenir à un tel niveau de pesolera, de purification, tel que nous l'avons dit, de tailler les pierres, tailler son corps à la dimension de son âme. Il doit tailler son corps à la dimension de son âme, de telle sorte que l'écriture puisse être imprimé sur le corps. Imprimé, c'est pas uniquement imprimé à l'extérieur, mais imprimé harut al aluchot, gravé dans. J'ai marqué d'ailleurs, nous avons l'obligation d'écrire la Torah sur aluach libechem, sur la table de votre cœur. Et c'est sur ce point-là que dans Parashat, chez Yitro, au chapitre réveillé, quand le pasuk dit Bahodesh Shelishi, et ce fut au troisième mois de la sortie d'Égypte, Bayom Azé, en ce jour, Baou Midbar Sinai. Donc le Rosh Chodesh, Sivan, ils sont parvenus, ils sont arrivés au Arsinaï. Après, il est dit, ils sont Mirfidim, ils ont quitté, ils ont voyagé de Refidim. Voyavo Midbar Sinai, ils sont venus au Midbar Sinai. Voyahanu ba Midbar, ils ont campé dans le désert. Voyahan, Sham, Israël, Negedar, Israël a campé là-bas, en face de la montagne. Donc ici, les Mfarshim souligne que le mot, c'est la seule fois où le mot Voyahan, ils ont campé, il a campé, et marqué au singulier. pour nous dire, Rashi nous dit, Voyahan Sham Israël, Keishéhad Belevehad, Aval Beshar, Kol Ahanayot, Betar Omot, ou Mahloket. Donc à chaque fois qu'ils campaient, ils étaient en dispute, il y avait des problèmes entre les individus. Mais là, ils étaient comme un seul homme avec un seul cœur. Et c'est exactement cette idée que nous avons indiquée. C'est ça ce qu'il est dit ici. Bahodesh Hachelishi, donc au troisième mois, ils sont parvenus, Béné Israël sont arrivés en ce jour de Rosh Chodesh Sivan, ils sont venus Midbar Sinai. C'est-à-dire qu'ils sont venus au pluriel. Il est marqué Baou Midbar Sinai, c'est au pluriel. Après, ils se sont installés là, ils sont restés là. Et là, ils ont commencé à méditer la montagne, la situation, ils se préparent. Alors, il y a marqué Vaïsoum Irfidim. Ils ont quitté Refidim. Alors, tous les Farshim s'interrogent que ce Vaïsoum Irfidim aurait dû être marqué avant. Et après, il me dit Vaïavo Midbar Sinai. Tu me l'as déjà dit qu'ils sont venus à Arsinaï. Donc ici, les Farshim disent qu'il s'agit d'un état d'esprit. C'est quoi Refidim? Refidim, c'est l'égoïsme. C'est chacun avec son problème. Chacun avec ses souffrances, avec ses ambitions. Et chacun avec ses difficultés. Chacun pour soi. Et là, il y a marqué, voyez-vous, au Midbar Sinai. Ils ont quitté cet état d'esprit-là. Et ils sont venus au Midbar Sinai. Ils sont venus encore. Voyez-vous, Midbar. Et ils ont campé dans le désert. Et le fait qu'ils campaient dans le désert, donc ils ont été inspirés de cette idée que nous avons mentionnée, que la nation, de la même manière qu'il n'y a pas de distinction fondamentale à la source entre les lumières qui vont être contenues et le contenant, comme nous l'avons expliqué, il n'y a pas de différence entre le corps et l'âme. Et s'il n'y a pas de différence entre le corps et l'âme d'un individu, le Zohar dit, l'individu, le mari et son épouse ne font qu'un seul corps. Les âmes Israël aussi sont de la même nature. Donc là, ils sont parvenus à conjuguer les corps en un seul corps, comme il dit Rachidi, Ke'ish Ehad Belev Ehad. Pourquoi il dit Ke'ish Ehad Belev Ehad? C'est comme si il y a une seule et unique lettre, une seule et unique énergie qui lie les individus. Et c'est cette madrega-là qui fait que la Torah, Harut à la Luchot, a pu être atteinte. Dès qu'il y a une conscience d'individualité, ça a été perdu. Et on le constate dans Het HaEgel. Het HaEgel, les Rebraves ont fait le Het HaEgel. Et la majorité des individus sont restés dans l'expectative. Ils attendaient de voir comment ça allait se passer. Ils n'ont pas voulu s'engager. Chacun pour soi. Alors qu'ils étaient 600 000, ils auraient pu empêcher. Tous auraient pu être inspirés de la même idée d'empêcher. Mais il n'y a que Hur qui a fait cela. Donc on voit que les individus se sont retranchés dans leur petit chez-soi. Et ça, c'est ça qui a causé fondamentalement le Het HaEgel. Et c'est ça, véritablement, la faute du HaEgel. À présent, il s'agit de Pesol Lecha. Tu dois tailler. Moshe Rabbeinu représente celui qui englobe l'âme Israël. Il doit tailler de telle sorte que les Luchot ne symbolisent pas uniquement l'individu, chaque individu. Ils symbolisent aussi la globalité de l'âme Israël. C'est-à-dire que quelqu'un, Réhouven, qui va faire du bien à Shimon, il ne fait pas du bien à Shimon, il fait du bien à Réhouven. Réhouven, Shimon, il n'y a pas de différence. C'est ça qui est Belevechad. Ça, c'est la leçon fondamentale qui est indispensable à la préparation de Kabbalat HaTorah, à l'événement Kabbalat HaTorah. Sans cela, il n'y a pas de nation. Et Akadosh Baruch Hu ne peut donner la Torah qu'à une nation soudée, solidaire, qui fait corps. Et Ratzon, Akadosh Baruch Hu nous inspire et nous donne les énergies suffisantes pour que nous puissions réussir cette mission imminente de faire corps, que Torah Israël puisse faire corps de telle sorte que la Torah puisse nous être octroyée, une Torah puissante et qui lumineuse et qui nous apporte toutes les berachot du Biat Goel Tzedek. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.